Troisième tableau, la cuisine du Castelet. À droite, dans l'enconure, une grande cheminée. À gauche, longue table et banc de chêne, c'est le petit jour. Scène première. Le patron Marc, l'équipage. Le patron Marc, sur une chaise, sue à grosses gouttes pour enfiler ses grandes bottes de marais. L'équipage tout harnaché est adossé contre la table et dort debout.
Vois-tu, matelot, en Camargue, il n'y a de bon que l'affût du matin.
Tirant sur sa botte.
Et allez donc! Le jour, il faut courir dans la vase, lever les jambes comme un cheval borgne, pour tuer quoi? Pas même une sarcelle. Oh, is me voilà beauté! À l'aube, au contraire, les oies, les flamands, les charlottines, tout ça vous défile en bataillon sur la tête, on n'a qu'à tirer dans le tas. Pan, pan! Ah, ça vaut la peine, hein? Qu'est-ce que tu dis? Hé, hey, là-bas, hé! Hey, est-ce que tu dors, matelot?
Manqué.
Comment manquer? Mais je n'ai pas tiré. Éveille-toi donc, animal.
Oui, pas...
Hein?
Oui, capitaine.
Ah, la bonne heure. Allons, arrive.
Il ouvre la porte du fond.
Voici une petite bise blanche qui te rafraîchira le museau. Oh, les butors soufflent dans les marais. C'est bon signe.
Au moment où il met le pied dehors, on entend une fenêtre qui s'ouvre.
Marc!
Oh oui?
Ne t'en va pas! J'ai besoin de te parler!
Mais c'est que l'affût...
Je vais réveiller le père. Nous allons descendre. Attends-nous.
La fenêtre se referme.
Marc rentre furieux.
Allons, voilà notre affût manqué. Trop. Qu'est-ce qu'elle a donc de si pressée à me dire? Je suis sûr que c'est encore pour me parler de cette Arlésienne.
Il se promène de long en large.
Ma foi, si cela continue, la maison ne sera plus tenable. Le garçon ne desserre plus les dents, le grand-père a les yeux rouges, la mère me fait une mine, oh, comme si c'était ma faute.
Il s'arrête devant l'équipage.
Est-ce que c'est ma faute, voyons?
Oui, capitaine.
Comment oui? Fais donc attention à ce que tu dis. Est-ce que je pouvais aller voir sous les sabots de cette Margoton pour savoir si elle avait perdu un fer ou deux en route? Puis enfin, quoi, en voilà des histoires pour une amourette. Si tous les hommes étaient comme moi, feu de Dieu, je serais curieux de la voir, la femelle qui me mettra le grappin dessus.
Bourrant l'équipage.
Et toi aussi, matelot, je suis sûr que tu serais curieux de la voir.
Scène 2. Les mêmes vivaient avec des paquets.
Déjà levé, capitaine?
Eh, mais c'est notre amie Vivette. Où allons-nous donc de si bonne heure, misée Vivette, avec ses gros paquets?
Je vais porter mon bagage au pontonnier du Rhône. Je pars par le bateau de 6 heures.
Vous partez?
Mais oui, capitaine, il faut bien.
Oh, comme elle dit cela gaiement, il faut bien.
Et vos amis du Castelet, cela ne vous fait pas gros cœur de vous en aller d'eux?
Ah, que si fait. Mais il y a là-bas à Saint-Louis une brave femme qui s'ennuie d'être seule. Et cette idée me donne du courage pour partir. Ah, bonne mère, mais j'y songe. Et le feu qui n'est pas fait? Et la soupe des hommes? Justement, ce matin, la chambrière qui est malade. Vite, vite!
Voulez-vous que je vous aide?
Volontiers, capitaine. Tenez là-bas, derrière la porte. 2 ou 3 fagots de sarment.
Marc prend les fagots.
Voilà, voilà.
À l'équipage.
Qu'est-ce que tu as donc à me regarder avec tes gros yeux?
Vivette prenant les sarments.
Merci. Maintenant, il n'y a plus qu'à souffler.
Je m'en charge.
C'est cela. Pendant ce temps, je vais jusqu'au bateau retenir ma place.
Vous allez revenir au moins.
Sans doute. Il faut bien que je dise adieu à ma marraine.
Elle charge son paquet.
Hop.
Laissez. L'équipage va vous porter cela. C'est trop lourd. Hé, hey, matelot. Eh bien, quoi? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'étonne? Prends ces paquets, on te dit.
À tout à l'heure, capitaine.
Elle sort. Scène 3. Le patron Marc, seul.
Si celle-ci s'en va, par exemple, nous sommes bien. Il n'y avait que ça de gai et de vivant dans la maison. Et puis, si avenante, si honnête avec tout le monde, s'entendant si bien à vous donner vos titres, oui, capitaine, non, capitaine. Ah, pas une fois, elle n'y aurait manqué. Et tout de même, ce ne serait pas déplaisant à voir trotter sur le pont de la Belle Arsène un joli petit perdreau de fillette dans ce goût-là. Eh bien, qu'est-ce qui me prend? Est-ce que moi aussi? Ah, décidément, il y a un mauvais air qui court par ici. Je crois à ma parole que cette Arlésienne nous a flanqué le feu à tous.
Scène 4. Le patron Marc, Balthazar. Balthazar, appuyé sur la table, le regarde depuis un moment.
Joli tam pour les bécassines, marinier.
Ah, c'est toi.
Il jette le soufflet.
Le ciel est tout noir de gibier, là-bas, sur Giraud.
Marc se lève.
Ah, ne m'en parle pas, je suis furieux. Ils m'ont fait manquer mon affût.
Et c'est pour te calmer le sang que tu... Pas besoin de mettre les bottes pour cela.
C'est bon, vieux malicieux. Il faut toujours qu'il soit dans votre dos, ce grand-là.
Voyant le berger s'asseoir au coin de la cheminée et allumer sa pipe.
Ah ça, tu es donc convoqué, toi aussi ?
Balthazar, assis dans la cheminée.
Convoqué ?
Mais oui, il paraît qu'il y a un grand conseil de famille ce matin. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, encore quelque histoire. Chut, les voilà.
Scène 5. Les mêmes, Rose, Français Mamaille.
Entrez, père.
Qu'est-ce qu'il y a donc ?
Ferme la porte.
Oh, il paraît que c'est sérieux.
Très sérieux. Tu es là, toi ?
Est-ce que je suis de trop, maîtresse ?
Au fait, non, tu peux rester. Ce que j'ai à leur dire, tu le sais aussi bien que nous. C'est une chose terrible, à laquelle nous pensons tous en nous-mêmes, et dont personne n'ose parler. Seulement, à cette heure, le temps presse, et il faut que nous nous en expliquions une bonne fois.
Je parie que c'est encore ton garçon dont il s'agit.
Oui, Marc, tu as deviné. Il s'agit de mon enfant qui est en train de mourir. Ça vaut la peine qu'on en parle.
Qu'est-ce que tu dis là ?
Je dis que notre enfant est en train de mourir, grand-père. Et je viens vous demander si tout bonnement nous allons le regarder passer comme cela sans rien faire.
Mais enfin, qu'est-ce qu'il a ?
Il a dit que c'était au-dessus de ses forces de renoncer à son Arlésienne. Il a que cette lutte l'épuise, que cet amour le tue.
Tout ça ne nous dit pas de quoi il meurt. On meurt d'une pleurésie, d'un palan qui vous tombe sur la tête, emporté par un coup de mer, mais que diable ! Un garçon de 20 ans, solidement amarré sur ses ancres, ne va pas se laisser glisser pour une contrariété d'amour.
Tu crois, Marc ?
Ah, il faut venir en Camargue pour rencontrer encore ces superstitions-là. Écoutez ceci, sœurette, c'est la romance à la mode cet hiver à l'Alcazar arlésien. Heureusement qu'on ne meurt pas d'amour, heureusement, heureusement qu'on ne meurt pas d'amour.
Balthazar dans la cheminée.
Ça chante bien, les tonneaux vides.
Hein ?
Ta chanson est une menteuse, Marc. Il y a des beaux 20 ans qui meurent d'amour, et même le plus souvent... Comme ils trouvent cette mort trop lente, ceux qui sont atteints de cet étrange mal se débarrassent de l'existence pour en avoir plus tôt fini.
Est-ce possible, Rose ? Tu crois que l'enfant...
Il a la mort dans les yeux, je vous dis. Regardez-le bien, vous verrez. Moi, voilà 8 jours que je le surveille. Je fais mon lit dans sa chambre, et la nuit, je me lève pour écouter. Croyez-vous que c'est vivre cela pour une mère ? Tout le temps je tremble, j'ai peur de tout pour lui. Les fusils, le puits, le grenier. D'abord, je vous préviens, je vais la faire murer, cette fenêtre du grenier. On voit les fenêtres d'Arles de là-haut, et tous les soirs, l'enfant monte les regarder. Ça m'effraye. Et le Rhône, oh, ce Rhône, j'en rêve, et lui aussi, il en rêve. Hier, il est resté plus d'une heure devant la maison du pontonnier à regarder l'eau avec des yeux fous. Il n'a plus que cette idée dans la tête, j'en suis sûre. S'il ne l'a pas fait encore, c'est que je suis là, toujours là, derrière lui, à le garder, à le défendre. Mais maintenant, je suis à bout de force et je sens qu'il va m'échapper.
Rose, Rose.
Écoutez-moi, Francette. Ne faites pas comme Marc. Ne levez pas les épaules à ce que je vous dis. Je le connais mieux que vous, cet enfant, et je sais ce dont il est capable. C'est tout le sang de sa mère. Et moi, si on ne m'avait pas donné l'homme que je voulais, je sais bien ce que j'aurais fait.
Mais enfin, voyons, nous ne pouvons pourtant pas le marier avec cette...
Pourquoi pas ?
Y pensez-vous, ma fille ?
Feu de Dieu !
Je ne suis qu'un paysan, Rose, mais je tiens à l'honneur de mon nom et de ma maison, comme si j'étais seigneur de Caderousse ou de Barbantane. C'est Arlésienne chez moi, fi donc !
Vraiment, je vous admire tous les deux à me parler de votre honneur. Eh ben, et moi, qu'est-ce que j'aurais à dire alors ? Voilà 20 ans que je suis votre fille, maître Français. Est-ce que vous avez jamais entendu une mauvaise parole sur mon compte ? Pourrait-on trouver quelque part une femme plus honnête, plus fidèle à son devoir ? Il faut bien que je le dise, puisque personne de vous n'y pense. Est-ce que mon homme, en mourant, n'a pas témoigné devant tous de ma sagesse et de ma loyauté ? Et si, moi, je consens à introduire cette drôlesse dans ma maison, à lui donner mon enfant, ce morceau de moi-même, à dire « ma fille ». Ah, ça, croyez-vous par hasard que ça me sera moins dur qu'à vous autres ? Et pourtant, je suis prête à le faire, puisqu'il n'y a que ce moyen pour le sauver.
Aie pitié de moi, ma fille, tu me brises.
Oh, mon père, je vous en conjure, pensez à votre Frédéric. Vous avez déjà perdu votre fils. Celui-là, c'est votre petit-fils, c'est votre enfant 2 fois. Est-ce que vous voudriez le perdre encore ?
Mais j'en mourrai, moi, de ce mariage.
Et nous en mourrons tous. Qu'est-ce que ça fait, pourvu que l'enfant vive ?
Mais qui m'aurait dit cela, mon Dieu, que je verrais une chose pareille ?
Balthazar se levant tout d'un coup.
J'en connais un qui ne la verra pas, par exemple. Comment, ici, dans Castelet, une cateau qui a roulé avec tous les maquignons de la Camargue ? Eh bien, ça sera du propre.
Jetant son manteau, ça trique.
Voilà ma cape et mon bâton, maître Français. Faites mon compte que je m'en aille.
Balthazar, c'est pour l'enfant. Pense, je n'ai plus que celui-là.
Eh, laissez-le donc partir. Il a pris trop de place à notre feu, ce serviteur-là.
Ah, l'on a bien raison de dire que 1000 brebis sans un berger ne sont pas un bon troupeau. Ce qui manque depuis longtemps à cette maison, c'est un homme pour la conduire. Il y a des femmes, des enfants, des vieillards. Il manque le maître.
Réponds-moi franchement, berger. Crois-tu que l'enfant serait capable de se tuer si nous ne lui donnions pas cette fille ?
Je le crois.
Et tu aimerais mieux le voir mourir ?
100 fois.
Va-t'en, misérable ! Va-t'en, sorcier de malheur !
Elle s'élance sur lui.
Laissez, laissez, Rose. Balthazar est d'un temps plus dur que le nôtre, où l'on mettait l'honneur par-dessus tout. Moi aussi, je date de ce temps-là, mais je n'en suis plus digne. Je vais faire ton compte. Tu peux t'en aller, berger.
Non, pas encore. Voilà l'enfant qui descend. Je suis curieux de voir comment vous allez vous y prendre pour lui dire cela. Frédéric, Frédéric, ton grand-père veut te parler.
Scène 6. Les mêmes, Frédéric.
Tiens, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe donc ? Qu'est-ce que vous avez ?
Et toi, malheureux enfant, qu'est-ce que tu as ? Pourquoi es-tu si pâle, si brûlant ? Tenez, grand-père, regardez-le. Ce n'est plus que l'ombre de lui-même.
C'est vrai qu'il est bien changé.
Bah, je suis un brin malade. Mais ce n'est rien, un peu de fièvre, ça passera. Vous vouliez me parler, grand-père ?
Oui, mon enfant, je voulais te dire, dis-lui, toi, Rose, moi jamais je ne pourrais.
Écoute, mon enfant, nous savons tous que tu as une grande peine, dont tu ne veux pas nous parler. Tu souffres, tu es malheureux. C'est cette femme, n'est-ce pas ?
Prenez garde, ma mère. On avait dit qu'on ne prononcerait jamais ce nom-là ici.
Il le faut pourtant bien, puisque tu en meurs, puisque tu veux en mourir. Oh, ne mens pas. Je le sais, tu n'as trouvé que ce moyen pour arracher cette passion de ton cœur. C'est de t'en aller de ce monde avec elle. Eh bien, mon fils, ne meurs pas. Comme qu'elle soit, cette Arlésienne maudite, prends-la, nous te la donnons.
Est-ce possible ? « Ma mère, mais vous n'y songez pas. Vous savez bien ce que c'est que cette femme. »«
Puisque tu l'aimes. »«
Ainsi, vraiment, ma mère, vous consentiriez ? Et vous, grand-père, qu'est-ce que vous en dites ? Vous rougissez, vous baissez la tête. Ah, le pauvre vieux, comme cela doit lui coûter. Faut-il que vous m'aimiez tous, pourtant, pour me faire un sacrifice pareil ? Eh bien non, Mille fois non, je ne l'accepterai pas. Relevez la tête, mes amis, et regardez-moi sans rougir. La femme à qui je donnerai votre nom en sera digne, je vous jure.
Scène 7. Les mêmes, Vivette. Vivette s'arrête timidement.
Pardon, je vous dérange ?
Frédéric la retenant.
Non, reste, reste. Qu'en dites-vous, grand-père ? Je crois que celle-là, vous n'aurez pas de honte à l'appeler votre fille.
Vivette ?
Moi ?
Frédéric à Vivette, qu'il soutient.
Tu sais ce que tu m'as dit. Le mal qu'une femme m'a fait, il n'y a qu'une femme qui puisse le guérir. Veux-tu être cette femme, Vivette ? Veux-tu que je te donne mon cœur ? Il est bien malade, bien ébranlé des secousses qu'il a reçues, mais c'est égal. Je crois que si tu t'en mêles, tu viendras à bout de lui. Veux-tu essayer ? Dis.
Le père et la mère restaient perdus, les bras tendus vers Vivette d'un air suppliant. Vivette à Rose.
Répondez-lui pour moi, ma reine.
Balthazar prend la tête de Frédéric dans ses mains.
Ah, cher enfant, Dieu te bénisse pour tout le bien que tu me fais.